Merci donc pour cet exposé extrêmement détaillé sur l'ensemble de ces populations. Donc on va désormais franchir le Rhin avec Catherine, qui va avoir encore la mission de tenir dans les 20 minutes ou presque.
Merci Philippe. Oui, donc là je voulais déplacer un peu le regard sur le couple France-Allemagne, en fait, pas simplement sur l'Allemagne, avec l'idée de relativiser un petit peu les vertus du modèle allemand qu'on ne cesse de vanter, et particulièrement en ce moment, en introduisant donc la question des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail dans ces deux pays. Alors, cette comparaison, avant de rentrer dans l'essentiel de mon propos, que je vais développer en deux points. Le premier point se centrera sur le conflit entre la carrière et l'enfant dans les deux pays, ce conflit étant plus prononcé, plus aigu en Allemagne. Enfin, c'est la thèse que je défends, et pas seulement moi. Et un second point parlera des questions d'écart entre les taux de fécondité entre ces deux pays, qui est un peu un mystère, parce que ces deux pays sont confrontés à la crise, et la France largement autant, voire plus que l'Allemagne, et pourtant, ça n'a pas, semble-t-il, limité ces écarts de fécondité. Au contraire, ils ont tendance à s'accroître. Donc, avant de rentrer dans ce propos, je voulais dire quelques mots sur la spécificité de cette comparaison, mais rapidement. En fait, bon, il y a très très longtemps que les Français se comparent aux Allemands, hein, ça fait plus d'un siècle et demi, et en général avec une coloration affective assez forte qui est liée quand même au passé historique, les guerres entre ces deux pays, et donc en fait toutes ces comparaisons sont mêlées incontestablement à la fois d'admiration, de crainte et d'envie. Bon, en tout cas du côté français. Et ça, je pense que, y compris moi comme chercheuse insérée dans des gens qui travaillent sur ces questions, et là l'exposé que je vous fais est tiré d'une controverse qui va être publiée dans une revue qui s'appelle Travail, Genre et Société en novembre, où plusieurs auteurs ont écrit, y compris donc je pense tous ces chercheurs, y compris moi, on n'échappe pas complètement à cet inconscient, je dirais, culturel, national et sexué en l'occurrence, puisque je suis une femme. Donc évidemment qu'on a un point de vue situé. Hein. Donc je souligne ça pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'aller critiquer l'Allemagne et encore moins de vanter la France, parce que, alors dans aucune comparaison, je ne sais pas si Philippe peut me contredire, mais j'ai vu que la France apparaissait comme un modèle. Alors le Danemark, oui, la Suisse scandinave, enfin, on a vu beaucoup de pays, mais enfin, la France, moi, je ne sais pas si tu veux me contredire, Philippe, tu le diras, mais je n'ai jamais vu la France, si. En tout cas, quand on parle des femmes, ah bon ?
Le taux d'emploi des femmes mariées, en France.
Ah oui. Mais enfin, je veux dire un modèle un peu plus général. Oui, quand on parle, général. Si on parle quand même un modèle un peu plus général, on voit rarement la France, même sur la question des femmes, même si on n'est pas si mal loti. Bon, voilà, donc c'était pour cadrer un peu mon propos. Ensuite, donc, en quoi on peut dire que... Je voulais d'abord aussi expliquer que pendant longtemps, le taux d'emploi des femmes, en général, même pas seulement des femmes mariées, était plus faible en Allemagne. J'avais fait une recherche dans les années 70-80, c'était vraiment flagrant. Bon, il y a eu en revanche un énorme accroissement des taux d'emploi des femmes et d'activité des femmes en Allemagne depuis les années 80-90, et notamment qui s'est poursuivi dans les années 2000. Par ailleurs, deuxième observation, en revanche, depuis 40 ans, le taux de chômage, notamment des jeunes, des femmes et des hommes, est plus élevé, nettement plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc ça, c'est plutôt un point à mettre au passif, je dirais, de la France, même si, en plus, même dans ce diapo, vous voyez que l'Allemagne, le taux de chômage des femmes est plus faible que celui des hommes. Ce qui peut paraître un peu étonnant. Il y a peu de pays où c'est le cas. La plupart du temps, il y a un surchômage féminin. Alors, Mariette Maruani, qui est une spécialisée sur ces questions, explique aussi que c'est lié au fait que les indemnités de chômage des femmes mariées sont pas bonnes en Allemagne et que donc ça pourrait inciter un certain nombre de femmes à se retirer du marché du travail ou de ne pas s'inscrire. Voilà. Donc, il faut se méfier aussi des taux en général, comment ils sont calculés, qu'est-ce qu'ils recouvrent. On voit la même chose en Angleterre, où le taux de chômage des femmes est plus faible que celui des hommes depuis longtemps, mais c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire que pour une femme mariée qui a des enfants, pour qu'elle s'inscrive au chômage, il faut des conditions qu'elle ne peut pas remplir, du style, vous pouvez faire garder votre enfant, comme il n'y a pas de mode de garde, elle ne peut pas, donc voilà. Donc il faut bien faire attention à ces conditions-là, mais n'empêche que, ce bémol étant mis, il y a quand même de façon récurrente ça. En revanche, je vous disais, pareil pour le taux d'activité des femmes, en 87, la France, le taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans, c'est-à-dire aux âges d'activité où il y a les enfants, où on n'est pas scolarisé, et pas non plus un senior, où se concentre l'activité, le taux d'activité des femmes en Europe en 1987 était plus élevé en France qu'en Allemagne, tandis que l'écart se restreint énormément. En 2010, on voit qu'il y a presque, il y a encore un petit écart, mais qu'il est beaucoup plus limité. Il y avait 10 points d'écart, il n'y en a presque plus. Bon, en revanche, si on regarde d'un peu plus près... qu'est-ce qu'il en est de cette activité des femmes qui s'est développée très fortement ces dernières années? Les travaux des spécialistes de l'emploi et d'autres montrent que elle s'est fait quand même cette progression de l'emploi des femmes. Elle a concerné surtout des emplois féminins peu qualifiés, précaires et à temps partiel. Alors c'est vrai aussi en France, hein, mais encore plus en Allemagne, c'est encore plus rapide. Et d'autre part, donc le temps partiel, on s'aperçoit qu'il a énormément cru en Allemagne. Bon, j'ai pas marqué l'évolution. En pourcentage de l'emploi féminin, il est 46% versus 31% en France en 2010, mais il était beaucoup moins, il était autour de 30% il y a 15 ans. Donc il a énormément augmenté en Allemagne, alors qu'en France, il est relativement stable. Il a beaucoup augmenté dans les années 80 avec la crise, mais depuis, il est resté, il n'a pas tellement augmenté. Et en pourcentage de l'emploi total, on voit donc qu'il y a plus de temps partiel donc, en Allemagne, et un écart beaucoup plus fort aussi entre hommes et femmes dans le temps plein. Voilà, ça c'est l'écart d'emploi à temps plein des 15-64 ans. On voit qu'il est l'écart d'emploi entre hommes et femmes pour l'emploi à temps plein est de 22,7% versus 14,1% en France. Donc on a un gap entre l'activité des hommes et des femmes qui est plus forte en Allemagne qu'en France. Bon, ensuite, si on voit ce qu'il en est de l'enfant, les femmes, le taux d'activité des femmes sans enfants est plus élevé en Allemagne qu'en France. En revanche, quand elles ont un ou deux enfants, le taux d'activité des mères françaises est plus élevé. De nouveau, ces écarts étaient encore plus forts il y a 10 ans. Hein. Ils tendent quand même à se restreindre, mais enfin, ils sont toujours là. La question de l'enfant est toujours plus conflictuelle. L'arrivée de l'enfant, c'est quelque chose qui est toujours plus conflictuel en Allemagne qu'en France. Et il y a, par exemple, une autre statistique qui le montre, c'est ce qui se passe après la grossesse, à la fin de la grossesse. Les femmes allemandes sont beaucoup plus nombreuses à réduire leur temps de travail et à s'interrompre complètement que les femmes françaises, et ça c'est toujours vrai dans les années récentes. Donc l'arrivée d'un enfant pèse plus sur les Allemandes que sur les autres. Et donc du coup, cette combinaison, les interruptions d'activité, le temps partiel, j'ai oublié de dire aussi les mini-jobs, ce sont des jobs très, à temps très très court et à rémunération aussi assez faible, qui ne dépassent pas 400 euros, qui ont été mis en place par, je crois, c'est le gouvernement Schröder, non, qui les a mis en place, Hartz, pardon, c'est ça.
C'est le nom des lois.
C'est le nom des lois, voilà. C'est pour favoriser l'activité, on a créé ces emplois où il n'y a pas de cotisation des salariés. Et les salariés qui touchent ces revenus faibles ne payent pas d'impôts. Mais en revanche, ils ne bénéficient pas non plus de la protection sociale contre le chômage et des droits à la retraite très minimes. Donc, et dans ces mini-jobs, les femmes représentent 2/3 de ces mini-jobs qui se sont beaucoup développés. Donc, précarisation. Encore une fois, c'est vrai en France, mais aussi largement. Et elle est même largement aussi importante, mais c'est encore plus frappant et l'ampleur est encore plus grande en Allemagne, en tout cas du point de vue des développements de l'emploi. Donc, en revanche, une des conséquences de tout ça, c'est que du point de vue des salaires, le gap salarial est plus fort entre les hommes et les femmes en Allemagne qu'en France. Et on peut imaginer aussi qu'à la retraite, ce cumul de ces désavantages va s'observer, même si aujourd'hui en France, on est mal loti, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais la retraite moyenne des Françaises est à peu près la moitié de celle des hommes. Elle est autour de 600 et quelques euros versus 1600 pour les hommes. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout, il faut dire que ça se passe bien en France, mais voilà. Alors, Il y a une autre caractéristique, mais qui est liée à cette première, mais en même temps plus énigmatique, c'est l'évolution de l'indice de fécondité dans les deux pays. Alors là, je tire ça de travaux qui ont été faits par Marie-Thérèse Le Tablier et Anne Sall sur ces questions-là. Elles ont fait vraiment une recherche un peu systématique pour à la fois mesurer ça et essayer de comprendre pourquoi. Donc il y a à la fois une recherche quantitative et une recherche par entretien auprès des jeunes Allemands et jeunes Français, ou moins jeunes, dans deux villes comparables, pour savoir pourquoi on voulait un enfant, pourquoi on n'en voulait pas, qu'est-ce que ça signifiait d'avoir un enfant, etc. Et pour comprendre un peu cette énigme, parce qu'effectivement, la situation de la France n'est pas brillante, il y a de plus en plus aussi de précarité et de chômage, et pourtant, on continue à faire des enfants. C'est donc beaucoup, beaucoup moins le cas en Allemagne. Ça, c'est pour l'ensemble de la population, mais moi, j'étais dans un colloque qui parlait pour les femmes diplômées, c'est encore plus flagrant. J'étais un colloque sur les universitaires et les chercheurs à Bonn, où on montrait que quasiment la moitié des femmes maîtres de conférences, enfin, ça s'appelle pas maîtres de conférences, mais assistantes professeurs, n'avaient pas d'enfants. Et ce qui est intéressant, alors, dans ces travaux, c'est qu'ils montrent que c'est pas uniquement du côté des femmes que ça se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes hésitent à avoir des enfants parce que, enfin, les couples, aussi bien les femmes que les hommes, hésitent à avoir des enfants à cause du coût que ça représente, c'est-à-dire que quand dans un contexte d'insécurité économique, on imagine que l'arrivée de l'enfant est difficile parce que comme la femme dépend, risque de perdre son, doit se retirer du marché du travail quand il y a l'enfant, etc. Donc elle risque de perdre. Si l'homme est fragilisé aussi, ça fragilise vraiment. Et du côté des hommes, on s'aperçoit aussi que ce sont surtout les hommes qui ne veulent pas s'engager dans la paternité parce que le modèle du breadwinner, c'est-à-dire de l'homme apporteur de revenus principal du foyer, qui est responsable de la sécurité économique du foyer, est mis à mal. Et donc c'est encore plus eux que les femmes qui, enfin ça va ensemble, hein, parce qu'on fait des enfants à deux jusqu'à Nouvel An, donc qui sont dans cette attitude, et ça je trouve intéressant cette recherche qui déplace le regard, pas simplement, on parle toujours comme si c'était les femmes, la fécondité des femmes, en général c'est quand même des décisions qui se prennent à deux, et c'est intéressant de voir qu'en Allemagne, ces hommes, voilà, et donc là c'est quelques chiffres, avec deux enfants par femme, donc c'est 1, la France est parmi les pays qui a le taux de fécondité les plus élevés, alors que l'Allemagne avec 1,4 a un des plus bas, c'est même un peu moins d'1,4. L'écart entre les deux pays s'accroît, et la part dans couples, alors ça c'est sans descendance, est plus élevée en Allemagne qu'en France. Et enfin, bon, les familles nombreuses sont moins... Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Anne Sall et Marie-Thérèse Le Tablier ont essayé de ramener ça aussi à la question historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation était complètement inversée au XIXe siècle et au début du XXe, où j'ai pas mis le graphique, mais où les taux de natalité étaient beaucoup plus élevés en Allemagne qu'en France. Et il y a eu donc des préoccupations natalistes forcenées au XIXe siècle, au début du XXe, enfin très affichées, en disant l'enfant est un bien public, etc. Et c'est repris, là, elle cite un discours de Nicolas Sarkozy en 2012, il n'est de richesse que d'hommes, des empires ont été détruits faute d'enfants, etc. Vraiment cette idée du déclin faute d'enfants. Donc c'est quelque chose en France qui est très fort, cette idée des politiques natalistes qui datent du 19e. Et en revanche, en Allemagne, les enjeux démographiques sont restés longtemps un tabou. Longtemps parce qu'il n'y avait pas d'urgence, puisque je vous dis, les taux de natalité étaient très élevés. Et puis ensuite, après la guerre, eh ben, il y a eu quand même l'histoire des nazis, etc., de l'héritage du Troisième Reich, qui fait qu'il y avait une certaine méfiance à l'égard de la natalité. Et d'autre part, il y avait en RFA le contre-exemple de la RDA. Enfin, la RDA était un contre-exemple pour les femmes de RFA. Donc, il y avait une certaine, disons, ambivalence, etc. Et par ailleurs, donc, tout ça fait que la politique familiale, qui sont très importantes en Allemagne, hein, il y a énormément d'argent pour la politique familiale, mais c'est parce qu'on considère que, c'est une politique de subsidiarité, c'est-à-dire c'est à la famille d'abord d'assurer, et c'est en cas vraiment de défaut de la famille, soit pour des raisons économiques, soit par veuvage, etc., que l'État intervient. Donc il n'y a pas du tout cette idée que c'est l'État qui doit s'occuper de la garde des enfants. Et d'autre part, on a essayé de réduire le niveau de vie entre les familles et les personnes sans enfants. L'idée étant qu'un enfant ne doit pas pénaliser les familles. Mais donc c'est important aussi pour comprendre, c'est ancré bon, dans, 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 dans l'histoire allemande et dans la voilà et dans les l'approche qui a été faite par cette enquête qualitative auprès sur les hommes et les femmes en leur demandant pourquoi vous avez ou non des enfants. Alors donc la question effectivement de l'emploi, de la sécurité de l'emploi est majeure dans les deux pays. Mais quand on interroge des jeunes les Allemands ou Allemandes, on parle surtout de l'emploi stable de l'homme, tandis que quand on interroge des jeunes Françaises ou Français, on parle de l'un des deux. Il suffit que l'un des deux, au moins dans le couple, ait un revenu ou un emploi à peu près stable pour qu'on puisse engager un enfant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est-à-dire que l'image de la sécurité, enfin l'image du coût de l'enfant et de la sécurité est beaucoup plus forte et vue du côté de l'homme essentiellement en Allemagne, mais ça répond aussi à une certaine réalité puisque j'ai montré avant que effectivement l'arrivée d'un enfant était coûteuse en termes de salaire et de carrière des femmes. Or, il y a aussi, comme en Allemagne comme en France, beaucoup de divorces et de séparations et on peut pas compter indéfiniment sur un homme pour. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est pour mettre un petit peu un bémol, c'est qu'il y a en France, il y a aussi une norme très très forte de l'enfant, c'est-à-dire que c'est très mal vu une femme qui a pas d'enfant, y compris paradoxalement dans l'entreprise. Moi, j'ai fait des enquêtes en entreprise, beaucoup sur les femmes cadres, par exemple. Certes, un certain nombre sont bon, c'est pas forcément. On pose des questions sur quand est-ce que vous allez voir votre enfant. Il y a une discrimination avec ça, mais en même temps, les femmes qui n'ont pas d'enfants, les célibataires sans enfants sont pas bien vus dans l'entreprise et il y a une énorme pression à avoir un enfant. Une femme en France, à un moment donné, si elle veut, même deux, quelquefois, vous avez eu le premier, on dit bientôt le deuxième, voilà. Donc il y a une pression, une norme en France qui est d'avoir des enfants, tandis que la non-maternité est quelque chose de mieux toléré socialement en Allemagne. C'est beaucoup moins stigmatisant, même si l'enquête que je citais tout à l'heure sur les universitaires et les problèmes des femmes chercheurs, universitaires et chercheurs en Allemagne montrait qu'il y avait quand même un coût psychique du renoncement à l'enfant chez les femmes. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est un choix, qu'elles sont formidablement heureuses, tout va bien. C'était intéressant de montrer, l'enquête allemande montrait que, notamment chez les jeunes enseignants, comme la précarité dans l'enseignement supérieur s'est énormément aggravée et qu'il n'y a pas comme en France, même si ça, c'est pas facile en France et ça s'est aggravé, il y a quand même des postes de titulaires et de fonctionnaires qui sont offerts à l'âge de 30-32 ans. Tandis qu'en Allemagne, l'accès à des postes vraiment stables, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, se fait beaucoup plus tard. Donc, du coup, avec cette précarité accrue dans les débuts de la vie professionnelle des universitaires, les hommes et les femmes ne font pas d'enfants, notamment dans les professions très diplômées. Voilà. Donc, je conclue très vite. Je pense.
Hein, tu as le temps.
Non, mais c'est bon. Comme ça, on aura plus de temps pour discuter. Je parle vite, donc. L'introduction donc des femmes et de la comparaison France-Allemagne. Bon, j'ai pas insisté sur la comparaison des systèmes de formation parce que je pensais pas avoir le temps. Mais il y a beaucoup de débats sur la comparaison France-Allemagne ont insisté sur l'avantage du modèle de formation dual, c'est-à-dire en alternance école-entreprise en Allemagne par rapport au système scolaire français, en montrant que c'était un facteur d'intégration des jeunes et que ça expliquait ce beaucoup plus faible taux de chômage des jeunes qu'en France. Là encore, c'est vrai, c'est incontestable. Et puis moi, j'ai regardé du côté des femmes, même si elles sont moins dans ce système dual que les hommes et qu'elles sont plus souvent dans des systèmes privés scolaires, moins reconnus par les conventions collectives, incontestablement, beaucoup sont dans le système dual aussi. Et c'est un système qui permet une bien meilleure intégration des jeunes pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Et ça, c'est toujours vrai, même si des Allemands eux-mêmes montrent que ce modèle s'est affaibli, qu'il y a moins d'entreprises qui jouent le jeu, que bon, il s'est affaibli. Mais il marche encore. Ça, c'était pour. En tout cas, ça nuance, même quand on prend toutes ces questions, les vertus du modèle allemand pour les femmes. Ensuite, ce qui m'intéressait aussi, même si ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'en introduisant ces questions sur les femmes, et on aurait pu mettre autre chose, hein, sur les étrangers, c'est la même chose pour moi, ou les jeunes et les vieux, c'est que ça interroge la pertinence même de ces raisonnements en termes de modèle. Philippe Askenazy avait dans son bouquin Les décennies aveugles, qu'il avait écrit que par exemple sur ce modèle du Danemark qu'on mettait en exergue en disant que c'était merveilleux, qu'il n'y avait pas de chômage. Juste quand on commençait à dire dire ça, manque de peau, le chômage augmente énormément. Bon. Donc, il faut faire très attention. Enfin, les modèles sont à la mode, et puis ils tombent de mode, et puis on en trouve un autre, etc. Donc, il faut faire attention à ce type de raisonnement, parce qu'il y a une variation interne entre les dimensions étudiées qui est considérable. Par exemple, même et les dimensions même au sein de chaque pays, entre régions. Par exemple, je vous ai parlé des questions des femmes, mais si on regarde les ex-lenders de RDA et les ex-lenders de RFA, il y a des écarts considérables. À la limite, ceux de l'Est ressemblent à la France, sont très proches de la France. Donc, même si la réunification a plutôt aligné l'Allemagne sur le modèle de l'Ouest. Bon, les différences entre nationaux et étrangers, etc. Donc, et ensuite, donc, variation dans le temps. Comme je vous disais, il y a quand même une tendance à la réduction des écarts entre les deux pays sur plein d'indicateurs. Et puis ensuite, la dernière chose que je voulais dire pour conclure, c'est que quand on insiste sur des comparaisons comme ça de deux, surtout quand on fait sur deux, contrairement à l'OCDE qui en fait sur 34 ou 33, je ne sais plus combien.
34.
On a tendance à insister, à focaliser l'attention sur les différences et moins sur les grandes similitudes et les évolutions, soit des situations, soit des évolutions. Et incontestablement, il y a quand même d'énormes similitudes entre ces deux pays sur plein de points, y compris dans le système de formation, par exemple. Dès qu'on prend un troisième pays comme l'Italie, on s'aperçoit qu'en Allemagne comme en France, le diplôme est quelque chose de très, très important et quelque chose de très certifié, très valorisé par l'État, très reconnu, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays comme l'Angleterre, etc. Donc, dès qu'on prend un troisième pays, ne serait-ce qu'un troisième pays, on relativise les différences. Et enfin, donc, dans les similitudes, on a la dynamique d'égalité entre les sexes qui est en marche dans tous les pays, heureusement, et particulièrement donc, dans les pays développés. Et cette dynamique qui s'accompagne en même temps d'une aggravation des inégalités au sein de chaque sexe. C'est-à-dire que quand même, ce que je crois beaucoup de travaux mettent en évidence, c'est qu'il y a de plus en plus d'écarts entre les favorisés, les riches, les hommes performants d'un âge moyen, et puis les jeunes, si on met tout ensemble, immigrés, femmes, etc. Et ça cette polarisation, ces inégalités, voilà, on en a parlé tout à l'heure de la nounou africaine et de la femme ingénieure. Moi, j'ai travaillé sur les femmes ingénieures, incontestablement. Les femmes ingénieures, elles ont certes, il y a des inégalités de carrière et d'emploi avec les hommes, elles sont dérisoires par rapport à ce qu'il est les inégalités entre les femmes ingénieures et les nounous africaines. Voilà, c'est pas du tout pour dire que la question n'existe plus, mais c'est pour dire que il faut pas occulter non plus et il faut être attentif à cette augmentation des inégalités. Merci.
Bien, ben merci en tout cas chacune d'entre vous aussi d'avoir tenu parfaitement le temps. Donc on a eu des regards qui sont largement complémentaires. Peut-être dans un premier temps, je vous propose que chacune d'entre vous réagisse sur ce qui a pu être dit par les autres, tout ça en très peu de temps, et puis on voit avec la salle. Et moi, peut-être, je me permets juste comme élément de démarrage de ce qui pourrait ressortir de tous ces éléments descriptifs, c'est quand même une interrogation sur l'existence dans à la fois donc France, Allemagne, et puis dans toutes les dimensions, de stéréotypes puissants dans la société, qui permettrait à la limite d'expliquer des inégalités flagrantes touchant les différentes populations. Alors sur les immigrés, enfin moi je me souviens avoir été dans la grande distribution où il n'y avait pas, par exemple, personne noire et un asiatique n'étaient pas discriminés l'un l'autre. Ils étaient embauchés tous les deux dans des rayons alimentaires l'un comme l'autre. Mais lorsqu'il s'agissait de les mettre dans un rayon de découpe, on mettait jamais le noir en charcuterie, oui, oui. Parce que la clientèle, un noir en charcuterie, ça n'allait pas du tout. On le mettait en poissonnerie, parce que ça faisait exotique, c'était très bien. Et en revanche, un asiatique, on pense à la nourriture asiatique, etc. On pouvait le mettre dans le rayon charcuterie traiteur. Et donc la personne n'était pas, au départ, il n'y avait pas de discrimination, mais ça devait correspondre à exactement les stéréotypes que voyait la population. Et lorsqu'on voit à la fois comment fonctionne la société sur les femmes, telles qu'a pu décrire Catherine Marie, comme on voit aujourd'hui en France, justement, sur les immigrés, il faut qu'ils rentrent dans telle et telle cases. On peut croire aux réseaux, mais ces réseaux peuvent être aussi endogènes à des stéréotypes que l'on a profondément ancrés. Et de la même manière, tous les discours que l'on tient sur ces jeunes qui veulent pas aller travailler, qui font rien, etc., ou bien ces vieux qui sont trop usés, dont on ne sait pas quoi faire, ou autre, peut-être c'est... de ce qui ressort de ce que vous avez pu dire, peut-être sous-jacent, c'est à nouveau pour lancer la discussion, je ne dis pas que c'est la bonne interprétation, mais peut-être sous-jacent le problème sur lequel il faudrait travailler plus que solutions qui sont des mesures économiques ou fiscales, notamment sur les femmes, on dit, enfin, en Allemagne, on pourrait dire il faut changer les modes de fiscalité pour favoriser la fécondité. Bon, voilà, donc c'est un petit peu pour... Enfin, une sorte de question en quelque sorte transversale, mais ça m'intéresse que vous réagissiez peut-être chacune sur ce que vous pouvez dire. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout ça en quelques secondes, quelques minutes. Bon, on peut reprendre le même ordre, à la limite. Oui, oui.
D'accord. Alors, en repartant justement des stéréotypes, c'est vrai que c'est très puissant... Et c'est très ancré et c'est très difficile à changer aussi. Et nous, on a vu, par exemple, pour permettre à des jeunes immigrants diplômés de trouver un emploi, ce qui fonctionne assez bien, c'est le parrainage. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui dit à l'employeur, ce jeune qui a un bac plus 5... Je m'en porte garant et je vais... Et donc, il peut briser des barrières dans l'entreprise. Parce qu'en fait, bac plus 5, ça ne suffit pas. Il y a le nom, il y a l'adresse, etc. Et bon, et ça, c'est assez dommage. Donc, c'est vrai qu'il faut briser ces stéréotypes. Et alors, concernant les femmes, je suis tout à fait... proche de tout ce que vous avez dit, surtout que je suis entourée, moi, il y a pas mal, beaucoup d'Allemandes à l'OCDE, diplômées, et qui n'ont pas d'enfants, et qui ont tout misé sur leur carrière. Hein. Alors, je me demande aussi s'il n'y a pas, pour les femmes en Allemagne, un temps qui est très contraint. Parce qu'en fait, les diplômés en Allemagne, ceux qui ont un diplôme supérieur, mettent beaucoup de temps à rentrer sur le marché du travail. Et souvent, ils ont fini leur thèse et leurs études, oui, vers 30 ans. Bon. Et à ce moment-là, pour la femme, c'est un temps très contraint entre 30 ans et 40 ans pour avoir un enfant. Et le choix est fait plutôt sur la carrière que sur avoir un compagnon, un enfant, etc. Donc, les femmes sont dans leur vie familiale plus dans un temps contraint que les hommes. Et ça, ça les désavantage beaucoup. Donc, il faut prendre une décision d'avoir un enfant à un moment où on a envie de prouver son talent professionnel. Et voilà ma réflexion.
Je souhaiterais aussi parler un peu des questions des femmes. Et en plus, l'Allemagne, je suis d'origine allemande. Et donc, ma famille habite en Allemagne, je connais donc un peu ce système. Et seulement pour compléter, hein, il y a la femme qui a des enfants et qui travaille à une mauvaise réputation. C'est l'entourage social qui valorise très négativement le fait de travailler tout en ayant des enfants. Et en plus, il faudrait aussi voir un autre aspect. Ici, en France, il y a eu quand même des hommes politiques qui ont développé le système des crèches et des écoles maternelles. Hein. Mais c'est quasi absent en Allemagne. Et donc, qu'est-ce que les femmes qui veulent travailler font? Il n'y a pas les nounous africaines. C'est compliqué, hein. Et donc, je le vois dans avec mes propres soeurs. Hein. Donc, il y a une difficulté à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, ayant eu des enfants, revient sur le marché du travail et là, a des salaires inférieurs aussi aux hommes. Hein. Là, il y a quand même des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Hein. Et comme vous avez dit, en Allemagne, les impôts soutiennent les hommes. Hein. Le salaire de l'homme et la femme et le travail de la femme est très... imposé, hein, et donc du coup, ça pose aussi problème. C'est toute une société toute une chrétienne démocratie qui a développé le système des mères avec les enfants. Hein, et donc, et actuellement, Angela Merkel aussi, elle n'est pas pour instaurer quotité ou quota, ce genre de choses-là, ça a été discuté récemment. Et donc, plafond de verre, c'est donc quelque chose qui est difficile à y insérer. Hein. Donc, en ce qui concerne les seniors, je dirais, si on revient aux immigrés, les immigrés seniors, ce sont ces groupes qui sont venus seuls dans les années 60-70. Hein. Et parmi eux, il y avait quand même pas mal des hommes qui sont retournés dans le pays. Hein. Et ceux qui sont venus après, dans les années 80, se sont souvent aussi installés ici. Ils ont des familles et donc ce sont des populations qui sont en fin de vie active. Hein. Et donc du coup, il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup d'immigrés des pays tiers ici en France. Hein. Bien sûr, de l'Union européenne, mais là, la situation est proche de celle des... Le français. Excusez-moi que j'ai pu.
Bon, laisse parler. Je fais une dernière. Bon, je vais vite, mais moi j'ai été frappée dans ce que vous avez dit, Anne Sonnet, là, que la France était, qu'il y avait seulement trois pays, dont la France, qui ne donnait pas d'aide sociale pour les jeunes de 18 ans. Et je trouve ça incroyable, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça, là, de nouveau, ça renvoie pas à quelque chose, une sorte de refus ou l'idée en France que la jeunesse est assistée, enfin encore plus forte qu'ailleurs. Enfin bon, là, je peux faire un tout petit témoignage de cette mentalité en France. C'est, j'ai été un jour dans le jury d'oral de l'ENA et la question était l'insertion professionnelle des jeunes, et le président du jury était celui qui avait monté le RMI, qui avait créé le RMI, c'était un énarque. Bon. Et dans le reste du jury, c'était des gens pas du tout familiers de l'ENA d'ailleurs, et j'ai été frappée à chaque fois qu'on posait des questions sur et pourquoi pas RMI jeune, parce que c'était des hurles, enfin c'était vraiment des regards horrifiés de la part de tous les candidats qu'on a eus, il y en avait 60, qui disaient c'est impensable, c'est pas possible. Alors ils disaient, ben oui, mais il y en a aux Pays-Bas, il y en a ailleurs. Ah, mais non, ce que je veux dire, c'est que ça rend, en France, quand on parle de ça, ça soulève des réactions extrêmement fortes, et en même temps, je trouve c'est extraordinaire de dire qu'on est parmi trois pays sur 34. Là, pour le coup, c'est un argument qui devrait pouvoir...
Ah oui, mais ça ressort tout le temps.
Ça porte peu, hein, cet argument, malheureusement. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, c'est, bon, je vous propose... Alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou quelque chose comme ça. Voilà. On va faire des blocs de... Peut-être de trois questions.
Bonsoir. Moi, j'avais une question pour Anne Sonnet. Vous aviez dit qu'il y avait une corrélation positive entre emploi des seniors et emploi des jeunes, il me semble. Et est-ce que c'est juste une constatation ou est-ce que vous pouvez l'expliquer, les raisons
Oui, je voulais vous demander à propos des immigrés si c'est un stéréotype ou pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une grande différence quand même entre les populations dites asiatiques, dont on va dire qu'elles dépendent de réseaux, avec le système de tontine qui existe, c'est-à-dire qu'ils sont venus en France, ils ont plus ou moins à rembourser les frais qui ont été engagés pour leur venue, avec pas un très grand souci, si je me trompe, d'intégration pour certains. Et puis un autre groupe africain qui n'existe peut-être plus, hein, où les hommes se sentaient un peu responsables de retour de revenus, et d'ailleurs également des Algériens, des gens du Maghreb, de retour d'argent vers leur pays, qui était quand même un flux qui autrefois était très important des pays développés vers des pays en voie de développement, qui est un flux, je crois, qui a diminué. Et puis, toutes ces populations qui étaient en fait dans l'industrie et qui étaient assez fiers du métier qu'ils exerçaient, populations qui n'ont plus du tout maintenant, avec la décroissance de l'industrie, de fierté quelconque dans le fait de travailler en France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce stéréotype de réseau, un peu mafieux, etc., qui va toucher les Asiatiques, de réseau un peu généreux, des Africains ou des gens du Maghreb qui vont essayer d'aider les pays d'où ils viennent. Et puis, entre les deux, ces populations qui ont vieilli chez nous, qui ont accumulé des droits à la retraite qu'ils n'ont pas le droit de toucher, sauf en restant en France. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de ces populations-là dont je ne sais moi-même pas trop quoi faire et dont je ne sais pas si elles existent vraiment ou si c'est des idées préconçues. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quantitativement, du moins. Voilà. D'abord, Anne, peut-être, sur...
Oui, c'est une question très intéressante et très profonde. Donc, la corrélation entre l'emploi des jeunes et des seniors, parce que c'est, comme je l'ai dit, il y a eu toute une vision beaucoup plus quantitative et arithmétique de la somme d'emplois dans une économie en disant les places libérées par les seniors vont être attribuées aux jeunes et donc c'est ça qui a beaucoup justifié les pré-retraites. Mais quand on regarde les chiffres et qu'on met les chiffres de tous les pays de l'OCDE, on voit, ou dans le monde entier, on voit que les pays où il y a beaucoup de seniors au chômage, il y a également beaucoup de jeunes. Ça veut dire que il y a un grand dynamisme du marché du travail, ses porteurs, etc. Et ça reflète beaucoup plus un fonctionnement dynamique qu'arithmétique du marché du travail. Et même si on met, par exemple, dans une période de crise, même si on met... Si les seniors restent plus au travail maintenant, c'est pas dit qu'ils prennent la place des jeunes parce que le mode de fonctionnement est tel que s'il y a des emplois qui sont créés actuellement, ce sont des emplois précaires, temporaires. Alors, il y a eu beaucoup de pré-retraites, c'était souvent dans un cadre de restructuration aussi. Et donc, on n'engageait pas un jeune pour remplacer un âgé. Donc, en fait, en anglais, c'est la lump of labor fallacy. Et ça a dicté énormément de raisonnements, mais qui étaient beaucoup trop quantitatifs et arithmétiques, alors que le mode de fonctionnement de l'économie est très, très différent. Donc, en fait, on prône beaucoup plus maintenant l'idée... Alors, actuellement qu'il y a dans le contrat de génération, la solidarité intergénérationnelle, la diversité des groupes d'âge dans les entreprises. Mais on doit en fait lutter contre un stéréotype et une idée, un mythe, une idée fausse du fonctionnement du marché du travail.
Oui, en ce qui concerne les retours d'argent des immigrés, il faut quand même considérer que dans les années 60-70, ces gens sont venus et sont pas venus avec l'idée de repartir tout de suite. Hein. Donc, ils n'avaient pas les possibilités que les migrants actuellement ont d'être connectés via webcam, via Skype, via des billets d'avion qui ne sont pas trop élevés avec leur communauté d'origine. Hein. Donc il y a, depuis les 30 dernières années de la mondialisation, il y a des flux entre les différents pays qui sont extrêmement élevés. Hein. Et des flux, ce ne sont pas seulement des flux en personne, mais aussi des flux d'argent. C'est un de mes doctorants est en train de travailler sur les Sénégalais et les envois d'agents au Sénégal. Hein. Et c'est un homme, quelquefois des hommes qui sont seuls ici, qui travaillent, qui habitent dans les dortoirs ou dans les immeubles, chambres, 3-4 hommes hein, qui... vivent durement avec très peu d'argent ici et qui envoient chaque mois dans les 400 euros pour leur famille, mais aussi pour des projets. Hein. Ils investissent dans les pays, ils peuvent construire des maisons ou investir pour plus tard, pour la quarantaine ou cinquantaine ou un peu plus, dans un magasin, dans une activité qu'ils veulent créer là-bas. Hein. Donc là, il y a des liens et c'est extrêmement développé. Et les diasporas chinoises aussi sont incitées par la Chine ça, quand même, beaucoup plus depuis l'ouverture de la Chine à investir dans le pays, à contribuer au développement du pays. Hein. Donc là, c'est vraiment, ce sont des marchés financiers énormes hein, qui dépassent... des investissements étrangers directs dans un certain nombre de pays. Hein. Donc ce sont des sommes colossales.
Ma question, elle est aussi à Madame Sonnet. À propos de la population plus spécifique des laissés pour compte, hein, donc, j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez que voilà un des endroits où, contrairement peut-être à une certaine image que nous avons, la France n'est pas... ces populations sont laissées pour compte dans tous les pays que vous avez étudiés, que la France n'est pas particulièrement mal placée à ce stade-là, alors qu'on a l'impression que nous, de par une certaine faillite éducative dans ces quartiers, un certain abandon administratif, on a un peu le sentiment qu'ils sont un peu à la traîne, alors qu'il y a probablement des talents. Vous, vous avez laissé entendre qu'y compris aux Pays-Bas, etc., ils avaient exactement le même type de problème que nous, c'est bien ça ?
Par rapport aux questions d'emploi des femmes et des fécondités, quelle différence et quel changement depuis la réunification ?
Oui, surtout que de mémoire, il y avait des crèches en RDA, voilà.
Alors le parrainage c'est pas du piston, c'est organisé par beaucoup d'associations de jeunes diplômés. Et il y a une proximité, ils appellent en fait des cadres dans des grandes entreprises, Bouygues, Total, etc., à participer comme de façon bénévole dans leur association. Et alors ces cadres donnent des conseils aux jeunes pour se présenter à un entretien. Ils ont également des contacts dans l'entreprise, dans leur entreprise, pour dire il faut lui donner sa chance. Je m'en porte garant. Et donc ils le font pour quelques mois et puis après ça passe. Donc ça fait partie un peu du développement de beaucoup d'associations en France et de l'aide tout à fait bénévole de beaucoup de citoyens qui veulent aider. Mais ça pourrait être beaucoup plus développé aussi, par exemple à Pôle emploi ou dans les missions locales. Mais c'est beaucoup développé dans des associations de jeunes issus de l'immigration eux-mêmes.
Alors, si je me permets pour ajouter là-dessus, vous avez raison de signaler Pôle emploi, etc. C'est-à-dire il y a quand même, au sein même des actions de l'État, une insuffisance dans la prise en compte des populations en difficulté, et même parfois une discrimination de ces populations. On le voit par exemple sur les aides à la création d'entreprises. Pour un même dossier, enfin des dossiers qui semblent équivalents, la probabilité pour un jeune issu de l'immigration ou pour un immigré d'obtenir une aide de l'État, d'OSEO, etc., ce qui est maintenant fusionné dans ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement, leur probabilité est deux fois moindre que celle d'un national. Donc il y a un gros travail travail à faire au sein même des outils qu'a l'État pour lutter contre ces aider, accompagner réellement les personnes qui sont en difficulté.
Alors, c'est vrai pour les jeunes laissés pour compte, c'est vrai qu'il existe un groupe dans tous les pays et que c'est le groupe le plus difficile à réinsérer. Aux États-Unis, on les appelle les disconnected, parce qu'ils sont très éloignés aussi bien de l'emploi que de l'éducation. Et c'est vrai qu'on a vu les émeutes dans les banlieues en France, etc. Mais ça existe aussi dans les autres pays. Et c'est pour ça que je vous ai montré aussi qu'en France, un des grands problèmes aussi, c'est la difficulté de s'insérer durablement sur le marché du travail. Donc les débutants en mal d'insertion, c'est aussi très important. Alors, pour aider les jeunes en grande difficulté dans les autres pays, ce qui est certain, c'est de dire qu'il faut vraiment avoir une démarche très approfondie et très globale, avec énormément d'implications d'adultes qui sont là et qui suivent les jeunes. Alors, le grand programme qui est préconisé aux États-Unis, par exemple, ça s'appelle le Job Corps, et c'est un espèce de campus où on met les jeunes en les coupant de leur milieu ordinaire, donc coupant de leurs mauvais amis, de tous les mauvaises habitudes, etc. Et on leur donne une chance pendant 6 mois, 1 an, avec sans aucune tolérance, hein, tolérance zéro pour tout, etc. Et c'est l'État fédéral qui paye ça, et c'est très coûteux. Mais pour un certain nombre de jeunes, ça marche. Et en France, on a développé un processus un peu similaire que moi, j'ai été visiter, j'ai trouvé ça très, très lié à l'armée, défense, deuxième chance. Oui. J'ai trouvé que là, c'était vraiment changer le comportement et c'était... c'est pour ça que pour moi, j'étais beaucoup plus impressionnée par les écoles à seconde chance qui n'impose pas un internat, une coupure du milieu familial, etc. Et qui également est très lié à l'apprentissage, au partenariat local, les entreprises locales qui peuvent insérer les jeunes, etc. Parce que des points faibles des job corps, quand ils sont qui vont faire leur campus loin de leur, même dans un autre état, etc., quand ils reviennent chez eux, ils ont du mal à reprendre des bonnes habitudes et à retrouver vraiment les entreprises locales qui les aident. Alors moi, par exemple, mon directeur est très en faveur des job corps, mais moi j'ai l'impression que dans le milieu, c'est très coûteux et il vaut mieux essayer de miser sur les partenariats locaux et que c'est plus efficace aussi.
Juste sur ça, en France, on a développé cela parce que, comme on réduisait les effectifs de l'armée, on se retrouvait avec des casernes vides et ça permettait de repeupler certaines zones. On pouvait mettre comme ça, il y avait des internats vides, donc on pouvait les remplir. C'est plutôt ça qui a guidé la logique, re-remplir certains bâtiments que véritablement penser aux jeunes. Bien, donc sur... oui.
Alors c'est une vaste question et j'ai pas forcément tous les éléments, mais pour aller vite, après la réunification, il y a eu quand même une très très forte chute du nombre d'emplois, enfin énormément de fermetures d'usines, il y a un remaniement en profondeur de l'économie de la RDA, et les femmes n'ont pas forcément été plus perdantes que les hommes, pas en termes d'emploi. En revanche, elles ont été beaucoup plus perdantes en termes de effectivement soutien à la maternité, à l'activité des mères, puisque les crèches ont très largement été fermées. On est revenu, bon, il y avait l'avortement était autorisé à l'est, pas à l'ouest. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient où elles ont perdu. Mais malgré tout, en dépit de ces évolutions-là, au fil des, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, là, j'avais des statistiques sur les effets quand même de la, des réformes d'Angela Merkel pour essayer d'améliorer l'accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans. Et il y a aussi eu l'instauration d'un congé parental depuis 2007. C'est assez étonnant parce que c'est un régime qui n'était pas de gauche, hein, Merkel, qui a mis en place ce congé parental à la suédoise. Et c'est vraiment plus, par exemple, c'est plus progressiste qu'en France, au sens où c'est un congé parental lié, où les personnes qui le prennent, le père, la mère évidemment, bon, c'est sur un an. Après, il y a 2 mois pour le père, obligatoire, sinon ils sont, si le père ne les prend pas, la personne qui le prend touche jusqu'à 67% de son salaire antérieur pendant un an. Donc c'était un peu comme en Suède, hein, c'est ça le congé parental en Suède. Ce n'est pas une indemnité qu'on verse quand vous gardez votre enfant. Bien, en dépit de cette instauration de congé parental, en dépit aussi de subventions beaucoup plus importantes données au kindergarten, c'est-à-dire au lieu où on garde des enfants dans aux différents lenders. Malgré ça, ça n'a pas du tout tellement fait évoluer les choses. Et le taux de prise en charge des enfants, là, varie considérablement entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire qu'il semble que les États, les anciens lenders de l'air, se soient beaucoup plus appropriés ces mesures que les femmes dans les autres pays. Donc là, il y a quand même aussi des résistances qui tiennent à autre chose qu'à l'offre de... Voilà, c'est ce que disent Marie-Thérèse de Tablier, Ansal et tout ça. C'est-à-dire, par exemple, comme chiffre, en 2010 ou 2011, c'est-à-dire 4 ans après ces mesures, vous avez simplement 7,7% des enfants de moins de 3 ans qui sont pris en charge par des structures soit publiques, soit aidées, subventionnées par l'État en Allemagne de l'Ouest, dans les États de l'Ouest, et 36% à l'Est. Donc 36%, je crois que c'est à peu près le taux français. Donc, c'est ce que je dis, c'est incroyable la différence. Et en revanche, je pense que ce qu'elles disent, un assez faible impact de ces mesures sur la fécondité en Allemagne et sur les comportements des femmes, c'est aussi parce que le modèle de la mère qui travaille, à plein temps en particulier, est stigmatisé et reste peu valorisé. Moi, mes collègues profs d'université en Allemagne me disent que leurs étudiantes disent toutes qu'elles vont s'arrêter. Elles anticipent qu'elles vont s'arrêter pour au moins la première année s'occuper complètement de leur enfant, quoi. Tandis qu'en France, on culpabilise beaucoup moins, encore que. Bon, il semble que dans les années récentes, la culpabilité des mères ait tendance à augmenter. Mais c'est vrai que quand même, il y a une différence assez forte. Alors même que, parce qu'on parlait d'insécurité, mais par exemple, il y a des... On voit chez les doctorantes qui n'ont même pas fini leur thèse, on parlait des 30 ans. Mais en France, il y a beaucoup de doctorantes, hein, tu ne me contrediras pas, Philippe, qui ont des enfants, donc avant même d'avoir un poste stable. Donc je crois que c'est autre chose uniquement que l'offre objective, parce qu'on sait très bien qu'en France, l'offre n'est quand même pas du tout suffisante.
Je peux peut-être compléter ? Bien sûr. Il me semble c'est aussi lié au fait que dans les États socialistes, les femmes travaillaient. Hein,
ah oui, donc, 90%, c'était le taux d'activité le plus...
Oui, donc plus il y avait des structures pour les enfants, donc les femmes étaient habituées, donc ça n'a pas changé tout de suite. Hein. Et au début, il y avait quand même la natalité à continuer en Allemagne de l'Est. Hein. Et donc, avec les influences venant de l'Allemagne occidentale, ça a contribué aussi à un changement des mentalités. Mais comme vous dites, il y a toujours des différences. Hein. Mais il faut quand même dire, les jeunes mères, maintenant, elles sont nées aussi en partie dans l'Allemagne réunifiée. Hein. Et vif, donc l'idéologie liée à la famille, et ils ne sont plus tellement influencés par le modèle socialiste qui imprégnait les mœurs tout de suite après la réunification, hein, où les jeunes femmes travaillaient à l'université, avaient des enfants, hein, et en plus, pas forcément au couple, mais c'était quand même très... ça existait sans problème. Une femme élevait un enfant tout seul, il y avait les crèches, ça ne posait pas de problème.
Je voudrais ajouter qu'en fait, un point commun entre l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est des taux de fécondité très faibles. C'est frappant de voir que... dans les pays d'Europe du Sud, y a les enfants sont les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui attendent un emploi permanent, etc., ne font pas d'enfants, et c'est un climat malgré tout très différent de l'Allemagne, et je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent pas de dialoguer sur ce sujet-là, parce que c'est au moins un point qu'ils ont en commun.
J'adore ça.
Merci à vous de votre attention. Oui. Bonne soirée.